Les Nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Catherine Libert, Hassan Mbéchour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
Nuit spéciale, le spectacle de Fil en aiguille. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Delphine Pinaza.
Bonsoir.
Bonsoir Christian Lacroix.
Bonsoir.
Bienvenue dans les Nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 6h30 du matin pour cette nuit spéciale, le spectacle de Fil en aiguille, à l'occasion des 10 ans du Centre National du Costume de Scène, dont vous êtes la directrice Delphine Pinaza et vous, Christian Lacroix, le président d'honneur.
D'honneur, voilà, insistons bien, après avoir été le président tout court.
Sur la scène du théâtre, le costume fait le personnage et le spectacle. Mais quand rois et reines, princes et princesses, servantes, valets et courtisanes s'évanouissent derrière le rideau de la dernière représentation, le costume peut craindre l'oubli et le dépérissement. Cette peau, éphémère et fragile du comédien, est pourtant un pan précieux de l'histoire des spectacles. Mémoire d'un art dans son époque, reflet de ses rêves et de ses idées, témoignage de ses techniques, le costume mérite donc bien, quand les lumières se sont éteintes, toute l'attention qui lui est portée sur les rives de l'Allier. C'est en 2006, à Moulins, qu'ouvrait le Centre National du Costume de Scène, dans le magnifique décor du quartier Villard, une ancienne caserne du XVIIIe siècle. Y sont conservés, exposés et étudiés depuis, des dizaines de milliers de costumes et d'accessoires. Delphine Pinaza, Christian Lacroix, c'est pour saluer ces 10 premières années d'existence que nous vous avons conviés à venir nous parler du Centre National de Costumes de Scène et à partager avec les auditeurs des Nuits de France Culture un programme d'archives consacré aux costumes de spectacle, à son histoire et à ses grands créateurs et à ses métiers. Comment est né le Centre National du Costume de Scène, Delphine Pinaza?
Question piège, peut-être. C'est une longue histoire. Là aussi, il est né certainement d'une conjoncture d'un bâtiment, de cette caserne militaire dont vous avez parlé justement, de ce très beau quartier Villard, construit à la fin du XVIIIe siècle, occupé par différents régiments de cavalerie, puis par la gendarmerie, et finalement déserté, voué à être démoli, et finalement sauvé, classé monument historique, et donc propriété du ministère de la Culture, qui au début des années 90, a décidé d'en faire un centre de réserve pour des collections nationales, et plus particulièrement le Centre National du Costume de Scène, puisque la décision remonte à 1995, et une ouverture effectivement en 2006. C'était aussi à une époque où, au-delà de ce bâtiment, il y avait une sorte de prise de conscience, peut-être de changement dans ce que c'était que le costume de scène, avec des ateliers et des théâtres qui étaient en mutation, en évolution, des ateliers qui fermaient pour certains d'entre eux, notamment les ateliers privés. Et le ministère de la Culture a pris conscience justement de ce patrimoine nouveau, qui n'était pas nouveau, mais qui était nouveau dans sa conservation, et d'une nécessité justement de le conserver et de le valoriser auprès du public. Et donc ces deux facteurs ont donné la création du Centre National du Costume de Scène.
Christian Lacroix, il y a 10 ans à sa création, vous êtes devenu le président de ce centre et comme vous venez de le rappeler, vous en êtes à présent le président d'honneur. Qu'est-ce qui vous a incité ou convaincu pour vous impliquer dans cette aventure?
Alors, j'ai entendu parler pour la première fois du projet même en 94, quand j'étais en train de travailler à la Comédie Française sur les costumes de Phèdre, Renato Bianchi, qui était le grand qui dirigeait les ateliers de costumes, avait évoqué ce sujet avec beaucoup d'enthousiasme, et je pense que c'était Jack Lang qui en avait eu l'idée. Et puis c'était un peu un serpent de mer en arlésienne pendant 10 ans. Et un jour, entre-temps, j'avais dessiné et les décors et les costumes d'un ballet de Balanchine pour Garnier, qui s'appelait Joyau. Et ce ballet partant en tournée, il fallait en revoir les décors parce qu'ils n'étaient pas adéquat pour toutes les maisons d'opéra dans lesquelles il était destiné à voyager. Et il y a un personnage formidable qui s'appelle Gilles Modolo, qui était le directeur technique de l'opéra, des opéras de Bastille et de Garnier, et qui dit, tu sais, ce projet-là, il est en train de prendre corps, ça va exister, Martine Kahn en est responsable, elle est un peu seule, il faudrait lui donner un coup de main, il faudrait en faire parler, il faudrait l'aider. Et pendant tout l'après-midi, il m'a vraiment chauffé, comme ça. Et moi, je suis d'une timidité maladive et surtout, d'une méconnaissance totale de tout ce qui est administratif. Mais comment veux-tu que je veux bien en parler? Et nous nous sommes rencontrés, Delphine, Martine, peut-être Gilles et moi. Et puis, elles ont tellement de charme et elles sont tellement convaincantes que je n'ai pas pu résister à accepter. Et puis, le costume, pour moi, c'est mon, j'allais dire, le noyau dur. C'est ce qui me motive depuis l'enfance, bien plus que la mode, bien plus que la couture ou que tout ce que j'ai pu faire. Donc, je pensais qu'il y avait un signe des dieux, que ça arrivait sur ma route, pas par hasard, et que c'était une sorte de, bah, d'illumination, quoi. Puis tu ne peux pas refuser un Centre National du Costume qui était certainement, dans ma tête, la chose dont je rêvais le plus étant enfant, en tant que centre de documentation. J'aurais rêvé que le CNCS existât dans les années 50-60.
Comment expliquer qu'en France, pays de la mode, on ne se soit pas soucié plus tôt de conserver les costumes, de les préserver ? Delphine Pinaza.
Alors, sur scène, le costume est peut-être avant tout un outil de travail. Ce qui a été conservé, ce qui l'est encore très récurrente, ce sont les maquettes, donc les dessins de ces créateurs de costumes, de décors, qui signent de leurs mains une conception de costume. Et la Bibliothèque nationale de France conserve justement dans ses collections des archives et ses documents depuis la création, en fait, de ces spectacles. Alors que le costume, ça avait plutôt la vocation d'être un objet utile, porté sur scène, un objet matériel qui était conçu, certes, justement sous les directives de ses créateurs, mais qui était utile, un peu comme les décors, et donc rattaché à une production utilisée pendant un certain nombre d'années, souvent très utilisée, donc peut-être plus utilisable après, et donc pas ce souci de conservation. De toute manière, déjà en France, ce n'est pas le pays qui a été le plus précoce dans la conservation de vêtements, de mode, même de textiles. Donc on peut aussi expliquer que ce retard, déjà dans la haute couture et dans la mode, c'est d'autant plus aussi marqué sur ce qui concerne la scène.
Oui, puisque l'idée de sauver le costume de scène ne peut être séparée de celle de sauvegarder le vêtement dit de ville. Le XXe siècle a d'ailleurs vu naître diverses initiatives en ce sens.
Oui, alors effectivement, il y a des collections qui se sont constituées et c'est intéressant de voir que justement certaines collections de musées se sont constituées au départ pour des costumiers de théâtre. Justement pour servir de référence, un peu ce que disait Christian, justement servir de référence à des costumiers de théâtre qui avaient besoin de pièces historiques pour créer des costumes. Donc petit à petit, tout cela s'est organisé plutôt au XXe siècle, alors qu'il y a des pays comme ne serait-ce que l'Angleterre, voilà, qui s'est mobilisé bien plus tôt sur la conservation. Voilà, le Japon, l'Asie d'une manière générale, où effectivement il y a ce souci de conservation. Après, dans certains de ces pays, ce qu'il faut aussi voir, c'est que, notamment pour le spectacle où la codification est très stricte, où les choses n'évoluent pas, où à la différence de nos sociétés, où le costume de scène a forcément suivi l'évolution de la société, là-bas tout reste très figé. C'est un peu comme les temples, on vous annonce un temple du XVIIe siècle, alors qu'il vient d'être construit il y a 20 ans. Donc il n'y a pas forcément les mêmes notions aussi par rapport à l'histoire.
Le CNCS n'est pas qu'un musée. Quelles en sont ses missions ?
Alors, avant tout, déjà, effectivement, vous le précisez, puisque dans le titre du Centre National du Costume de Scène, il n'y a pas le terme de musée, mais nous avons exactement les mêmes missions que celles d'un musée, à savoir conserver et constituer une collection de costumes, puisque cette collection n'existait pas au préalable et qu'il a fallu la constituer pour l'ouverture. Donc, le CNCS conserve avant tout trois grandes collections, celle de l'Opéra National de Paris, de la Comédie Française, les deux plus grands théâtres nationaux, et aussi les collections du département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Donc conserver, constituer, continuer à enrichir les collections, les valoriser auprès du public, que ce soit à travers un programme d'exposition temporaire présenté au CNCS ou ailleurs, prêter des costumes dans le cadre d'autres expositions qui peuvent être organisées par d'autres structures, les valoriser aussi auprès de jeunes étudiants, futurs professionnels, dans le cadre de workshops, de tous travaux justement de transmission, et étudier et enrichir la documentation de ce patrimoine qui est nouveau et qui doit justement aussi faire l'objet justement de documentation autour de ces costumes et de ces productions et de ces costumiers.
Mais c'est vrai que le souci, on a considéré comme patrimoine important à conserver, très récemment dans les maisons de couture. Ça remonte aux années 2000 en fait, hein, avec les grands groupes, avec un souci bien sûr de communication et de publicité. On ne compte plus les livres sur Chanel, les expositions sur Dior. Mais c'est un souci assez récent, et au théâtre c'est la même chose. D'ailleurs, dans les documents qu'on va entendre, il y a des témoignages où on dit bah oui, les costumes ça partait comme ça, on en avait, ça se repassait, ça c'était revendu, c'était, on se souvient aussi que bon, une des premières fois où j'ai travaillé pour l'opéra comique, c'était en 1985 ou 6 pour un spectacle pour enfants sur Cendrillon. Et j'avais demandé, parce que ça a toujours été mon souci, une sorte de marotte et une manière de travailler, de ressusciter ou en tout cas d'utiliser des costumes anciens pour les leur redonner vie. Et je pense qu'un personnage, quel qu'il soit, doit avoir plusieurs strates, plusieurs âmes. Et c'est une manière aussi de recycler le costume. Et j'étais effaré quand j'ai visité bien avant toi, il y avait la production qui avait été pour moi emblématique dans les années, en 59, je crois, de Carmen, de Rouleau, qui a été le spectacle qui m'a époustouflé et qui m'a peut-être fait dire « je veux faire ça », un des spectacles. Et tout ça a été dans des panières, dans la poussière, en train de pourrir. Mais on parlait des pays comme l'Angleterre, comme le Japon, comme l'Italie aussi. Je pense que la grande différence que nous avons par rapport à ces pays-là, c'est que ce sont des pays qui ont une grande révérence et une grande respect la tradition. Ce sont des pays de tradition, mais qui regardent le futur. Alors qu'en France, moi je l'ai vécu au niveau de la haute couture, par exemple pour les fournisseurs, les fabricants de tissus comme les Soyeux Lyonnais, qui se sont repris depuis, mais ils n'avaient absolument aucun respect pour leurs archives. C'est-à-dire que tout ça partait à la benne. Je ne vais pas citer les maisons parce que c'est trop triste. Et par contre, les Japonais récupéraient tout ça, et ça se retrouve aujourd'hui à Kyoto et ailleurs. Et quand on travaille au Japon, il y a ce souci de préservation, de restauration du passé, en même temps qu'un souci d'aller vers l'avenir et d'utiliser des technologies qu'en France, on ne regardait pas dans les années 80 avec un œil particulièrement intéressé.
On ne savait pas regarder, peut-être. Regarder vers le passé pour
Je crois qu'il a fallu qu'on sente que certains savoir-faire étaient en train de disparaître pour qu'on prenne conscience que peut-être il fallait garder ce qui restait et aussi faire passer ce savoir-faire, ce qui n'a pas toujours été possible. Il y a un témoignage dans un des documentaires, des documents qu'on va entendre tout à l'heure, qui explique bien ça, qu'en fait, tous ces artisans avaient envie de passer le relais à des gens dont qu'ils estimaient être dignes, et qui n'en trouvaient pas, ils préféraient s'arrêter. J'ai rencontré un vieux monsieur qui était un des derniers à savoir tailler dans le bois des formes de chapeaux pour la maison Michel. Il n'a pas souhaité transmettre. Madame Pouzieux, qui a été la dernière à savoir faire, elle tricotait des passementeries pour Chanel et pour d'autres, et je travaillais avec elle, avec ses doigts. Je disais, mais Madame Pouzieux, il faut absolument transmettre. Elle me dit, mais qui voulez-vous? Quelle jeune fille aura envie d'avoir des doigts comme les miens? Et elle est partie, elle a quitté ce monde avec ses secrets.
Christian Lacroix, aujourd'hui, la création de costumes de spectacle, d'opéra, de ballet est votre activité principale. Pour vous, le costume de scène, le costume de spectacle, c'est une longue histoire d'amour qui commence avant même vos premiers pas dans la haute couture. Vous dites, enfant, je ne pensais pas à la mode, mais au spectacle. Adolescent, j'en avais fait mon projet de carrière. En quoi le costume est-il, selon vous, un objet précieux de connaissance ?
C'est vrai que j'ai toujours senti que la vraie vie, pour moi, elle commençait dans une salle de spectacle. Mais ça pouvait être même un cinéma, je suis né à Arles, un cinéma avec un film de comédie un peu épaisse, un peu... Pour moi, c'était déjà échapper à une vie qui ne me satisfaisait pas. Je crois que j'avais un sentiment d'ennui profond ou de crainte ou de peur de la réalité. Et que mon refuge, c'était spectacle ou très humble, ou puisqu'on avait la chance d'être dans le sud, à la croisée de Aix, Orange, Avignon. C'était des échappées belles qui m'étaient absolument, absolument vitales. Et il y avait en moi aussi cette envie. Alors, j'étais beaucoup moins timide enfant, l'envie de jouer, d'être quelqu'un d'autre, d'inventer, d'être dans un autre univers. Et le conte qui m'avait le plus marqué enfant, c'était Alice au Pays des Merveilles, avec cette idée de traverser le miroir. Et ça, je me suis évertué à traverser les miroirs toute ma vie. Et dès 6, 7, 8 ans, je regardais ces documents, ces gravures. J'avais un grand-père qui m'amenait beaucoup à la bibliothèque d'art, regarder des gravures du 18e, des choses baroques, ou simplement les livres, et simplement les photos de famille, ou simplement, j'ai commencé très tôt à dépenser mon maigre argent de poche aux puces en vieilles photos, un vieux magazine, parce que j'étais d'une nostalgie pathologique. Ce qui me faisait vivre, c'était le passé, et remonter le passé. J'ai amassé une banque d'images à partir de l'âge de 6-7 ans, et je continue, qui n'était fait que pour me rendre le contemporain de ce qui m'avait précédé, donc du costume en particulier. Et le spectacle était, oui, l'endroit où je me sentais à l'aise. Et quand la lumière revenait, la mélancolie revenait. Et je ne vivais que dans ça. Et encore aujourd'hui, j'ai encore ce tressaillement quand il y a le rideau qui se ferme, qui s'ouvre, les trois coups. Et je pense que dans la vie, on a tous quelque chose, une sorte d'énergie qui vous pousse vers quelque chose qui est, on appelle ça le destin, le sort. Et il y a eu ce grand détour par la couture, mais parce que la couture des années où je l'ai pratiquée était une couture théâtrale, parce qu'on vivait une décennie qui était très très opératique, les années 80. Moi, elles m'ont pas plu particulièrement, puisque j'avais la nostalgie des années 80, elle recherchait les fastes et les raffinements et la sophistication de un Bérard ou du théâtre des années 40, 50. Mais c'est vrai que quand je parle aujourd'hui avec des jeunes gens des années 80, j'ai l'impression d'être un dinosaure et pour eux, d'avoir connu un paradis perdu. Mais c'est vrai que il y avait des princesses comme la princesse Vinter Noutaxis qui achetaient dans les collections de couture des choses qui étaient plus du domaine du costume que de la mode. Et les gens se mettaient en scène et jouaient des personnages. Et les crises ont emporté un peu beaucoup tout ça.
Et très vite, au milieu des années 80, vos rêves d'enfance vous ont rattrapé. Et dès vos premières collections, Jean-Luc Tardieu, saisissant ce qu'elles avaient de théâtral, vous a proposé de dessiner les costumes de son Chantecler. Mmh. Et ensuite, il y a eu la danse, Zoopsy Comédie, Cendrillon, Les Anges Ternis de Carol Armitage, l'opéra, Baryshnikov au Metropolitan Opera de New York. Vous décrivez votre travail pour la scène comme un exutoire à toute fantasmagorie dont la mode n'a que faire. Christian Lacroix.
Alors, je suis très heureux que vous ayez nommé, parce que je dirai jamais assez ce que je dois à Jean-Luc Tardieu, qui, l'espace de 2 secondes à l'époque, on allait en tant que couturier présenter 2-3 jours avant les collections un modèle ou deux aux gens télévisés de 13h. On était tous là, on se regardait un peu en chien de faïence, tiens, qu'est-ce qu'il a fait lui? Et puis c'était une mode qui était quand même assez opératique, comme je le disais tout à l'heure. Et en 2 secondes, il s'est dit, ce garçon-là, il faut qu'il fasse du théâtre. Il a compris ce qui. Parce que si je reviens un tout petit peu en arrière, 2 secondes, pour faire plaisir à mes parents, quand j'ai dit « je veux faire des costumes de théâtre », on m'a dit « oui, bon, d'accord, mais ben, passe ton bac d'abord, et puis, donc, comme j'aimais bien les lettres classiques, je commençais en latin grec, j'ai rencontré des amis qui étaient en histoire de l'art, je trouvais ça un petit peu plus glamour, donc je suis allé en histoire de l'art. L'histoire de l'art est devenue un petit peu ennuyeuse, je me dis « bon, ben, je fais plaisir aux parents, j'ai ma licence, je pars à Paris, et enfin, je pourrais aller à la rue Blanche ou ailleurs ». Et là, les profs disaient à mes parents « mais non, il ne faut pas qu'il s'arrête, il faut qu'il fasse l'école du Louvre, il faut qu'il aille à Paris 4, il faut qu'il continue ». Et je voulais travailler sur la mode, sur le retour chronologique des modes, dans l'histoire de la mode. Quand j'ai proposé ça à l'éminent Monsieur Tuilier, il m'a regardé avec des grands yeux. Et il m'a octroyé royalement la couleur dans la peinture du 17e. J'ai dit, bon, en mémoire, je ne l'ai pratiquement pas terminé. Et la vie qui vous rattrape toujours a fait que, par l'intermédiaire de ma femme et d'autres amis, j'ai montré les dessins que je faisais. Ces dessins qui étaient ni de la mode ni du costume. Mais la mode, une épingle, une aiguille, tout ça, ça ne me parlait absolument pas. C'était l'apparence, c'était ce qu'on pouvait jouer à partir du costume qui me motivait. Et je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec cette citation. Aujourd'hui, je crois que la couture, elle avait affaire avec... Si, parce que je pense que je commencerai pas aujourd'hui. Quoique là, il y a un côté à nouveau un peu spectaculaire dans la recherche, justement, dans toute période de crise, il y a une recherche d'un ailleurs. Et les modes et les spectacles les plus formidables ont toujours été, souvent été créés dans des périodes de guerre ou de crise. Le théâtre de Jouvet, le théâtre pendant la crise des années 20 à 40, il y a eu une créativité théâtrale formidable, à l'opéra un petit peu moins. Le ballet. Mais c'est vrai que j'imaginais mes collections de couture comme des spectacles et que les clientes, et là je ne me trompais pas, beaucoup de gens me disent, puisque si jamais il y a des auditeurs qui ne savent pas que ma maison, enfin la maison qui portait mon nom, mais mon nom ne m'appartient pas, a eu des problèmes avec la crise en 2009 et que je l'ai quittée, elle existe toujours, mais je n'en fais plus partie. Et je me suis tourné donc, comme vous le disiez, vers le spectacle. Mais on me demande souvent si je regrette, si j'ai des regrets. Et je dis non, parce que quand on habille une cantatrice, quand on habille une danseuse étoile, c'est comme quand j'habillais Madame Untel ou Madame Untel, que ce soit une princesse moyenne-orientale, la femme d'un banquier new-yorkais. C'était des femmes qui avaient besoin d'un costume pour vivre une vie qui n'était pas banale et qui était des personnages dont on pourrait souvent d'ailleurs écrire la vie. La vie de ces femmes-là pourrait devenir des arguments de ballet, des opéras ou des pièces de théâtre.
Habiller une personne ou un personnage, pour vous, c'est la même chose.
D'autant plus qu'en couture, c'était une robe pour une seule occasion, souvent. Une jeune mariée, de quel pays qu'elle vienne, elle apparaît comme dans une production du 18e. Et d'ailleurs, les derniers mariages auxquels j'ai pu participer au Moyen-Orient faisaient appel à des décorateurs, qui étaient des décorateurs souvent de théâtre. Et je me souviens d'une princesse qui arrivait, elle avait demandé à ce qu'il y ait des nuages qui s'ouvrent, des nuages de peut-être pas de carton-pâte comme au 18e, mais les nuages s'ouvraient. Et elle apparaissait, elle marchait sur un podium qui était sous l'eau, on voyait à peine, et on avait l'impression qu'elle marchait sur l'eau. Et c'était la naissance de... Parce que chacune se raconte déjà une histoire. Moi, je m'estimais l'assistant de ces filles-là. Je me disais, bon, depuis l'âge de 8 ans, je suis sûr que vous avez une idée en tête pour le jour où vous marierez. Et toutes me racontaient une histoire, Cendrillon, la naissance de Vénus. Et voilà, et je donnais corps à ce rêve comme au spectacle.
Delphine Pinaza, comment le fonds du CNCS s'est-il constitué ?
Il s'est constitué, comme on en parlait tout à l'heure, justement par cette prise de conscience de grandes structures d'abord, parce que ce sont les grands théâtres qui produisent, qui fabriquent, à différence de petites compagnies parfois qui ont plus de difficultés. Mais c'est vrai que ces trois grandes maisons, pour les reciter, l'Opéra de Paris, la Comédie Française, donc sont deux grands théâtres qui ont pour mission de produire des spectacles d'opéra, de ballet ou de théâtre. Et donc, au fur et à mesure, tous les ans, de nouveaux costumes sortent des ateliers et donc sont gardés au répertoire tant que le spectacle. Tant que la production est au répertoire et régulièrement, sans que ce soit fixé dans le temps, il y a des déclassements, donc des décisions officielles où on ne va plus reprendre cette mise en scène, ces décors et donc ces costumes. Donc que deviennent les costumes après leur passage sur scène, une fois qu'ils ne sont plus rattachés au répertoire d'une maison, ils sont déclassés et ils peuvent être disponibles. Donc là, tout est possible, dans le meilleur comme dans le pire cas, où quand c'est un théâtre qui est un lieu où on peut conserver dans des malles, dans des placards, au grenier ou à la cave, ou dans des lieux extérieurs, généralement les ateliers sont assez vigilants pour justement conserver ces éléments. Il y a toujours cette idée de resservir, que ça peut resservir. Et puis ces ateliers qui vont fabriquer, ils ont dépensé à la fois beaucoup d'énergie, de savoir-faire, de compétences, d'amour aussi, pour fabriquer ces costumes. C'est rare de pas voir des couturiers ou des habilleurs dire « mais ça peut toujours resservir » et l'opérateur de Paris, parce que moi j'y suis restée quelques années, a justement conservé, on parlait de 50 000, 60 000, 70 000 costumes dans des cartons à l'extérieur de Paris, dans cette idée de resservir un jour, que ces costumes pourraient resservir. Bon, finalement, ces costumes, au bout de 20 ans, 30 ans, sont dans des matériaux sont peut-être plus difficiles à porter, puisque dans toutes ces années aussi, depuis la Seconde Guerre mondiale, les textiles ont beaucoup évolué, les matériaux. Et donc, ce qu'on pouvait porter dans les années 50-60 ne serait plus porté aujourd'hui. La technique aussi du plateau a largement évolué, et les artistes, notamment pour ces grands théâtres, peut-être ne reporteraient pas ces costumes un peu anciens. D'avoir gardé tous ces costumes, finalement, pourquoi ? Et aussi, l'esthétique change. Et cette ère nouvelle de toujours depuis la Seconde Guerre mondiale où des metteurs en scène sont revenus rejouer, redonner un nouveau regard sur des pièces historiques, ont apporté justement un nouvelle esthétique qui forcément évolue dans le temps. Donc ce qui avait une marque peut-être trop des années 60, c'est sûr, ne pourrait pas remonter sur scène dans les années 80. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, plus les ateliers qui disparaissaient, ou certains ateliers qui fabriquaient, mais louaient aussi, il y a eu cette prise de conscience, justement, autour de ce patrimoine. Donc, les trois collections du CNCS viennent des dépôts de ces trois maisons, auxquelles se rajoute donc la Bibliothèque nationale de France, qui est déjà un lieu de conservation autour des arts du spectacle. Et puis, depuis l'ouverture et la création du CNCS, l'établissement a aussi des dons propres, qui ne sont donc pas des dépôts, mais de compagnies, beaucoup de compagnies de danse, qui ont tendance à fermer, s'arrêter, et qui s'adressent à nous, justement, comme maintenant le lieu. Nous sommes vraiment référencés, justement, comme le lieu du spectacle pour la conservation. Compagnies de danse, quelques costumiers, mais généralement, les costumes sont fabriqués pour un spectacle, qui appartiennent soit à une compagnie, soit à un théâtre, et ils n'appartiennent ni aux artistes, aux interprètes, ni aux costumiers. Donc, c'est très rare que ça arrive, ça peut arriver, que les dons puissent arriver aussi. Ou quelques familles. On a aussi des familles qui avaient un chanteur d'opéra avec quelques costumes, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais voilà, certains artistes avaient leurs propres costumes aussi.
Depuis le début de la nuit, nous parlons du costume, même si cela semble aller de soi. Qu'est-ce au fond que le costume de scène, de théâtre? C'est quelque chose qui a beaucoup varié et évolué au fil des siècles, Delphine Pinaza.
Oui, alors un costume... costume de scène, bien sûr, c'est une deuxième peau, vous le citiez tout à l'heure, c'est une deuxième peau, c'est un masque, c'est un élément matériel qui reste tangible, qui reste après le spectacle. C'est un outil de travail, c'est un élément visuel qui fait partie d'une mise en scène, d'une scénographie, c'est un décor vivant, c'est un outil de travail aussi pour l'interprète qui, en s'habillant de ce costume, s'habille aussi des caractéristiques de son personnage. On ne se réveille pas forcément princesse ou sorcière le matin, quoique.
Mais qui permet de lutter contre le trac, comme le rappelle Cécile Sorel.
Elle l'a dit très très bien, c'est un magnifique passage ça. Ouais.
Voilà, qui aussi peut-être une barrière, une distance aussi entre l'interprète et le public. Ce sont des éléments, l'ensemble est un élément signifiant pour le public qui va percevoir quelque chose justement du personnage à travers ce costume qui est de toute manière créé dans une mise en scène, dans un décor, dans un ensemble. Pour ce qui est justement du spectacle, de ce qu'on appelle le spectacle, ce sera peut-être moins le cas justement quand on parlera de l'exposition actuelle au CNCS, mais
Et pouvez-vous brièvement nous rappeler quelles sont les grandes périodes de l'histoire du costume de scène depuis, le 16e siècle en Europe? Très brièvement, d'ailleurs.
oui, ça peut être très très bref ou très très long. Les premiers spectacles, on va dire, à la cour, étaient joués par justement la noblesse et la cour, donc s'habiller comme pouvait être habillée la cour à Versailles, donc dans les mêmes costumes civils. Et là, peut-être que le costume avait vraiment une notion de montrer la richesse et le pouvoir de la France et la richesse justement de toute cette cour à Versailles. Petit à petit, tout ça s'est professionnalisé. C'est organisé plutôt au XVIIIe siècle où il y a une notion de réalité qui est arrivée avec un certain nombre d'interprètes, d'artistes, Favart, Lequin, Clairon, qui ont justement réclamé plus de réalité et non plus de jouer les bergères en robe à panier et en bijoux, mais d'être dans le vrai personnage. Donc ce souci vraiment de réalité, de réalisme sur scène. Et puis peut-être après, avec ce souci de réalité, est arrivé à faire quelque chose d'une copie conforme au cours du 19e. On est allé juste à faire appel à des archéologues pour reconstituer certains spectacles comme pour Aïda, où on a vraiment copié les vestiges de ce qu'on pouvait avoir en iconographie. Et puis finalement, bien sûr, les ballets russes sont arrivés au début du 20e siècle avec une explosion de couleurs et de dynamisme sur scène qui a réveillé un peu tout ça. Et puis depuis le 20e siècle, on peut dire, ça, pour moi, ça se rattache beaucoup à l'évolution de la société, des modes, bien sûr. Le costume de scène est forcément en lien direct et en influence avec la mode, la haute couture, qui s'est aussi organisée à partir du milieu du 19e siècle.
Et à quel moment crée-t-on des costumes spécifiquement, précisément pour un spectacle, pour une mise en scène? Puisqu'auparavant, les costumes voyageaient beaucoup d'une pièce à l'autre.
Il y avait cette idée de réutilisation, ce que vous voulez dire, oui. Alors, c'est vrai que, d'abord, les théâtres étaient beaucoup moins nombreux, peut-être, quoique, il y avait aussi c'était une entreprise privée, c'est-à-dire que c'était un directeur qui mettait sa fortune dans la gestion d'un théâtre. Il était assez vigilant sur la réutilisation. Là aussi, dans les archives, notamment sur les décors, on l'explique très bien, justement, cette idée de réutilisation. Il faut que ça serve, ça coûte cher de fabriquer, ça prend du temps aussi, et donc cette idée de réutilisation a toujours existé, et ce que disait aussi Christian, justement, même sur cette âme de qu'est-ce que ça donne de réutiliser un costume, les plusieurs vies d'un seul costume. Donc, je dirais que c'est plutôt avec l'apparition vraiment d'une mise en scène spécifique ou
du metteur
en scène. Quoique, bon, il apparaît quand même au 19e siècle, mais vous savez qu'à cette époque-là, il y avait un décorateur par acte, donc il n'y avait pas forcément ce souci d'unité esthétique, d'unité sur un seul spectacle. Ça, c'est plutôt au début du 20e siècle, période aussi justement de révolution théâtrale, où Diaghilev a fait appel à des peintres pour réaliser les concevoir les décors et les costumes. Donc, cette notion maintenant d'équipe artistique avec un metteur en scène ou un chorégraphe et un décorateur, un créateur de costumes, un éclairagiste ou un créateur du son, voilà, c'est vraiment le XXe siècle qui l'a synthétisé de cette façon.
Revenons au théâtre. Il y a dans cette exposition, la Galerie Proscenium, cette très belle robe que vous portiez dans l'Aigle à deux têtes, la robe est de Bérard, et il y a... paraît-il quelqu'un qui aurait dit que ce n'était plus qu'un objet inerte. C'est curieux, en effet, comme quoi la vie au théâtre, l'actrice, le personnage, a d'importance pour mettre en valeur même le plus beau décor.
Eh bien, une robe, évidemment, c'est rien. C'est une robe sur un petit mannequin, c'est un objet. Et quand elle était sur moi, ça faisait partie de ce personnage royal que je jouais. Et la robe vivait, elle vivait par ma colonne vertébrale, elle vivait par mes mouvements de hanches et de pieds. Enfin, c'est si vrai, je le dis en toute modestie, c'est si vrai qu'à l'époque de la création, Christian Bérard envoyait ses mannequins pour leur montrer comment il fallait jouer avec une traîne de 6 ou 7 mètres, avec 17 mètres de tissu autour des jambes. Et ça, je le faisais avec beaucoup de plaisir et d'amusement. Enfin, c'était exactement un prolongement physique comme la queue d'un félin, comme les plumes d'un paon. Enfin, ça s'étalait autour de moi et ça vivait de ma propre vie.
Nous venons d'entendre Edwige Feuillère évoquer Jean Cocteau au micro de François Le Targa en 1973. Elle parlait de la robe créée par Christian Bérard qu'elle portait dans L'Aigle à deux têtes. Nous entendrons les voix de Cocteau, Colette, Yvonne Debray, Jouvet, Henri Sauguet, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault rendre hommage à Bérard en 1949. On peut peut-être rappeler qui était Christian Bérard et l'importance qu'il a eue dans le monde du spectacle à son époque. Christian Lacroix.
Christian Bérard, d'abord, ça a été mon modèle. Je pense que, avant de connaître son nom, j'ai vu son travail davantage dans les revues de mode, puisqu'il a beaucoup travaillé pour Vogue en particulier. Et c'était un très très allusif et très précis en même temps. Et je sais bien que je serai jamais un grand dessinateur, parce que je n'égalerai jamais Bérard. Ça a été avec Philippe Julien, qui est un autre dessinateur, mais qui n'a jamais dessiné pour le théâtre, à ma connaissance. Bérard était donc l'héritier de la famille... est-ce que c'est des Pompes Funèbres hein. Je ne vais pas dire de bêtises, je pense que c'était un héritier de Roblot. Alors, qui est un jeune garçon du 16e arrondissement, et qui avait un goût immodéré pour la mondanité, pour le théâtre, et surtout ce don du dessin et de peintre. C'est un magnifique, énorme, très grand peintre. Ça, on peut peut-être le redécouvrir. Il y a eu une exposition, une fois, dans une galerie du 6e arrondissement. Mais surtout, il a été le compagnon de Boris Cocteau, avec qui il vivait. Donc, il a été dans le sillage de tous ceux qui avaient participé au ballet russe. Et il s'est inscrit dès la fin des années 20, début des années 30, à la fois dans la grande histoire de la haute couture, puisqu'elle a été infiniment proche de Chanel, de Schiaparelli, et au théâtre de Cocteau, de Jouvet, de Barrault. Donc c'était un personnage que je regrette de ne pas avoir connu, qui est très bien décrit par Colette et par d'autres dans ces documents, et qui avait la réputation d'être assez rond, pour ceux qui ne le connaissent pas, avec une très grosse barbe rousse, donc il entretenait très mal, il peignait avec ses doigts, ou en tout cas il était toujours couvert, maculé de peinture, de crayon, tout ça était. C'était un. Je viens de lire un livre d'une dame américaine qui était en poste pour les États-Unis à Paris, au Vogue, et qui est une amie proche de lui, Betty Ballard. Un livre s'appelle My Fashion. Et elle en parle très 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 joliment, et enfin très joliment, et d'une manière aussi dramatique. C'était quelqu'un d'absolument désespéré, qui doutait infiniment beaucoup de lui, et qui était d'une angoisse folle. Ça n'apparaît pas, ça ne se dit pas. Je l'ai découvert là, et qu'elle allait chercher dans les bouges les plus reculées de Paris, parce que quand il était en crise comme ça, c'était l'opium qu'il sauvait, ou dans des maisons de rendez-vous où elle allait d'où elle allait le tirer. Pour qu'il lui livre les dessins qu'il lui avait promis pour le Vogue, pour le lendemain. Et il éclatait en sanglots en disant qu'il était absolument incapable. Et puis bien sûr, une heure après, il se mettait à sa table et les choses naissaient, comme Colette le raconte, quand elle dit une bouche et un téton qui apparaissent sous sous le pinceau. Et les enfants ont toujours un instinct je sais qu'avant même de connaître ce nom-là, son dessin m'a complètement envoûté, comme ceux de Jean Hugo, mais surtout les siens, parce qu'il avait le don aussi de rendre. C'est très dur de rendre une époque, l'esprit d'une époque, l'air du temps. Et je pense qu'il y a, par décennie, une ou deux, deux artistes qui ont ce don-là. Aujourd'hui, un garçon qui s'appelle Delhomme, qui va rester probablement comme l'aquarelliste qui aura donné l'allure de ce qu'ont été les années 90-2000. Bérard, c'était ça, plus tout ce qu'on n'a pas connu, je pense, de sensibilité, de merveilles humaines. Mais c'est terriblement influencé. J'essaie encore de me départir de cette influence. Mais on a tous
des maîtres.
Des maîtres, oui.
Parmi les créateurs de costumes du XXe siècle, quel nom citeriez-vous ?
Alors, paradoxalement, celui qui me viendrait le plus, à part Bérard, là pour le théâtre, il y a Jean-Denis Balclès, que j'ai croisé, qui m'a beaucoup touché aussi par son don d'aquarelliste et cette sensibilité et ce goût français. Il y a cette chose un peu inexplicable qui fait que des années 30 aux années 60, c'est Paris qui donne le ton de tout, du théâtre, mais aussi de la décoration intérieure, et de la haute couture, bien sûr. Et il y a cette chose-là qui arrive avec juste un peu de passéisme, parce qu'il y a tout ce cinéma qui est né de l'occupation, ou même de juste avant la guerre, où on a une nostalgie de ce qui a précédé. Il y a tellement de films dès fin des années 30 qui se passent en 1980-90. Parce qu'on avait, comme aujourd'hui, la mode regarde les années 80 et 90, 1980-90, la mode des années 30 a beaucoup regardé ça. Et à cause de la censure pendant la guerre, beaucoup de films, pour dire ce qu'ils avaient à dire, se cachaient sous des costumes. Hein, Le Visiteur du Soir ou d'autres choses comme ça. Mais beaucoup, beaucoup de choses qu'il y avait. Puis Renoir, c'est tout un mélange. Renoir qui ressuscitait la période de son père aussi. Hein. Et Malclès. Aussi parce que j'ai commencé avec lui. Les premiers, vous l'avez cité tout à l'heure, c'était première production, c'était Chanteclerc. Et c'est ce que disait Delphine tout à l'heure. Ce qui m'a passionné dans ce que Tardieu m'a demandé, c'était d'à la fois exprimer, puisque comme vous le savez, dans Chanteclerc, ce sont des animaux, ce sont des costumes d'animaux, et que chaque animal de la basse-cour ou de la ferme est censé représenter un archétype de la société du temps de Rostand. Et la mission que j'avais, c'était que, avec le décor de Malclès, qui était un décor de grisaille, comme des gravures agrandies, et de l'éclairagiste, dont j'oublie le nom, les personnages arrivaient en ombre chinoise. Il fallait qu'on lise à la fois, par exemple, la mondaine un peu snob qui était la pintade. Et donc, moi, j'ai adoré faire ça, donner une silhouette à une actrice qui était une mode de 1880, donc avec la tournure que j'avais faite de façon à ce qu'elle ressemble à une queue de pintade, et un chapeau de 1880 qui était aussi comme une crête de pintade. C'était un travail génial. Enfin, l'idée était déjà dans Malclès, et j'ai été aussi très influencé, plutôt du côté du cinéma, par un costumier couturier qui s'appelait Adrian aux États-Unis, qui habillait beaucoup Garbo, les autres. Le film emblématique dans lequel il a fait un travail magnifique, c'est Women de Cukor, où à la fin duquel, dans certaines versions, dans certaines copies, il y a en couleur, dès 1936, un défilé de mode. Et il a ouvert une maison de couture, comme certains costumiers d'Hollywood. Et enfant, c'était toutes ces comédies musicales. J'aimais, dès les années fin 50, début 60, j'étais à l'affût de ces films, avec, dans la tête, toujours un peu tordu. J'aimais bien aussi quand un film racontait une autre époque à sa manière. C'est-à-dire que dans Paradis perdu, il y a le personnage de Fernand Gravé est une sorte de Poiret. Il y a en 1939 la mode de 1914 qui est revue. Et ça, c'était des choses, des visions en abîme de la mode qui continuent à me passionner beaucoup. Et infiniment. Mais sinon, voilà, je crois que j'ai cité les trois qui me tiennent à cœur. Que les autres ne m'en veuillent pas. Les vivants. Non, mais bien sûr, il y a eu tous ceux qui ont fait les grands ballets. Après, si on commence la liste, on s'arrête plus.
Voilà, nous en parlerons tout à l'heure. Delphine Pinaza et Christian Lacroix, merci. Nous allons donc écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit spéciale, le spectacle de Fil en aiguille. Dans un instant, le quatrième volet de Cécile Sorel, Confession d'une comédienne, une tribune de Paris proposée par Paul Guimard en 1950 sur la chaîne nationale. Hommage à Christian Bérard par Georges Baume en 1949 sur la chaîne nationale également. Et juste avant de nous retrouver pour la suite de cette nuit spéciale, nous écouterons Les Habilleuses de l'Odéon, une nuit magnétique proposée par Olivia Buffy et Sylvain Biville en 1998. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 2 heures pour la suite du programme de la nuit spéciale, le spectacle de Fil en aiguille.
Ah si, le principal, je m'en souviens. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai parlé tout à l'heure du Carmen de Raymond Rouleau de 59, Lila de Nobili. Mais elle est dans la... Bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais Lila de Nobili a été quelqu'un qu'on a oublié, qui a vécu dans les années 90, je pense. Hein, et qui a été une merveilleuse costumière.
Très bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure.